Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Jean XXIII et Jean-Paul II sont saints. Rome aura connu une journée inoubliable en ce dimanche de la Divine Miséricorde. Première absolue dans les 2000 ans d'histoire de l'Église catholique, deux papes ont été canonisés en présence de deux papes et de 800 000 fidèles émus et enthousiastes. En présence de son prédécesseur Benoît XVI, devant une foule qui s'étendait à perte de vue sur la place Saint-Pierre, l'avenue de la Conciliazione et bien au-delà du château Saint-Ange et dans les rues avoisinantes, le pape François a canonisé ce dimanche deux grandes figures emblématiques de la papauté, Jean XXIII et Jean-Paul II. Deux saints papes qui, a-t-il souligné dans son homélie, ont connu les tragédies du XXe siècle, mais qui n'en ont pas été écrasés. Marie Duhamel.
Ioannem vicesimum tertium et Ioannem Paulum secundum, sanctos esse decernimus et definimus.
C'est le cœur de la célébration, le moment le plus émouvant. Il est 10h15, une pluie fine tombe sur la ville. Le pape François récite solennellement la formule de canonisation en latin. Nous déclarons et définissons saints les bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul II et nous les inscrivons dans le catalogue des saints et établissons que dans toute l'Église, ils soient dévotement honorés parmi les saints. Les applaudissements alors parcourent la marée humaine pendant que les cloches résonnent dans les églises de la ville. Auparavant, le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour la cause des saints, avait demandé à trois reprises au Saint-Père de vouloir inscrire les deux papes dans le catalogue des saints. Les portraits d'Angelo Roncalli et de Károly Wojtyła avaient été déroulés sur la façade de la basilique Saint-Pierre. Le souverain pontife était arrivé à l'autel en procession derrière les évêques et cardinaux au chant de la litanie des saints. Tout de blanc vêtu et coiffé d'une myrte, Benoît XVI est longuement applaudi à son arrivée. S'appuyant sur une canne, le pape émérite salue en levant les deux bras avant de prendre place à gauche de l'autel, au premier rang parmi les cardinaux concélébrants. L'enthousiasme de la foule est à son comble lorsque le pape François lui donne chaleureusement l'accolade. Deux papes saints au ciel, deux papes sur la place Saint-Pierre, pouvait-on lire sur une banderole. Sur le parvis, le pape François officie avec quatre cardinaux. Deux reliquaires sont portés en procession près de l'autel. L'évangile est chanté en latin et en grec. Au moment de la prière des fidèles, c'est sœur Marie-Simon-Pierre qui lira l'intention en français, cette religieuse française miraculée qui est à l'origine de la béatification de Jean-Paul II.
Par l'intercession de saint Jean-Paul II, suscite toujours au Père, parmi les hommes de culture, de science et de gouvernement, la passion pour la dignité de l'homme.
À la fin de la messe, les délégations étrangères défilent devant le pape François. Cet événement sans précédent s'achèvera dans la liesse lorsque le souverain pontife, circulant dans une voiture découverte entre les rangées de barrières métalliques, se livrera au bain de foule traditionnel.
Voilà, le pape François a effectué un long tour en voiture jusqu'au château Saint-Ange. Je vous rappelle que la France était représentée par le Premier ministre Manuel Valls. Le roi d'Espagne, Juan Carlos, et son épouse, la reine Sofia, seront également reçus en audience privée ce lundi matin. Dans son homélie, le pape François, lui-même visiblement ému et impressionné par l'importance de l'événement, a rendu hommage à deux hommes courageux, porteurs d'une espérance vivante, qui ont aidé à restaurer et actualiser l'Église selon sa physionomie d'origine. Le compte-rendu d'Hélène des Tombes.
Jean XXIII et Jean-Paul II ont connu les tragédies du XXe siècle, mais n'en ont pas été écrasés. En eux, Dieu était plus fort, plus forte était la foi en Jésus, rédempteur de l'homme et seigneur de l'histoire. En ces deux hommes, contemplatifs des plaies du Christ et témoins de sa miséricorde, demeurait une vivante espérance avec une joie indicible et glorieuse. L'espérance et la joie que le Christ ressuscité donne à ses disciples et dont rien ni personne ne peut les priver. Applaudi avec enthousiasme par la foule, le Saint-Père a souligné que Jean XXIII avait montré dans la convocation du Concile une délicate docilité à l'Esprit-Saint. C'est le grand service qu'il a rendu à l'Église. Il a été le pape de la docilité à l'Esprit. Et c'est sous des applaudissements encore plus nourris qu'il a salué en Jean-Paul II le pape de la famille, rappelant que lui-même avait dit un jour qu'il aurait voulu qu'on se souvienne de lui comme du pape de la famille. Cela me plaît de le souligner, a-t-il ajouté. douter, alors que nous vivons un chemin synodal sur la famille et avec les familles, un chemin que du ciel, certainement, il accompagne et soutient. Et le souverain pontife a souhaité que ces deux nouveaux saints intercèdent pour l'Église, afin que, durant ces deux années de chemin synodal, elle soit docile au Saint-Esprit dans son service pastoral de la famille. Qu'ils nous apprennent à ne pas nous scandaliser des plaies du Christ et à entrer dans le mystère de la miséricorde divine qui toujours espère, toujours pardonne, parce qu'elle aime toujours. À la fin de la messe, avant la prière du Regina Cheli qui remplace l'Angélus en cette période de l'année, le pape François a chaleureusement remercié tous ceux qui ont voulu rendre hommage à deux papes qui ont contribué de façon indélébile à la cause du développement des peuples et de la paix.
Selon les chiffres officiels fournis par le bureau de presse du Saint-Siège, 800 000 personnes ont assisté à cette double canonisation. Quelques 500 000 sur la place Saint-Pierre, l'avenue de la Conciliazione qui mène à la basilique et les rues environnantes, les autres ayant suivi la célébration sur les 17 écrans géants disséminés dans le centre-ville. 98 délégations d'État ou d'organisations internationales, dont 24 chefs d'État et têtes couronnées, ont assisté à l'événement, ainsi que le corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. De nombreux drapeaux étaient visibles, principalement polonais. Dans la foule, encadrée par les forces de l'ordre et les volontaires, certains pleuraient d'émotion, d'autres chantaient avec enthousiasme, heureux malgré la fatigue. Arrivés en train, autocar, avion, voiture et même en bateau, équipés de couvertures, de parapluies et de chaises pliantes, beaucoup avaient passé la nuit dans des sacs de couchage ou participé à des veillées. Une douzaine d'églises étaient restées ouvertes pour une nuit blanche de prière. Des jeunes volontaires leur avaient distribué du café et de l'eau. Des dispositifs de secours avaient été mis en place dans les abords du Vatican. Plusieurs rues avaient été fermées par des cordons imposants de la protection civile et de la police. Plus de 2000 journalistes avaient été accrédités. La célébration était retransmise en Mondovision et projetée en 3D et haute définition dans des centaines de cinémas dans le monde. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies par Manuela Affigi dans les abords du Vatican.
La plupart étaient au JMJ de Paris, de Rome, de Toronto. Ils avaient crié « Santo Subito » lors de ses funérailles il y a 9 ans. Ils étaient là, à sa béatification. Ils forment la génération Jean-Paul II et leur présence à Rome était presque un devoir. Qui était Jean-Paul II pour eux? Leur compagnon de route, celui qui les a affermis, celui qui les a encouragés à ne pas avoir peur, celui qui leur a rendu la fierté d'être catholique.
Vous savez, c'est comme dans le roman de Marcel Pagnol, La gloire de mon père. Tous les Français connaissent ça. Mais pour nous, Jean-Paul II, c'est un père. Et pour moi, prêtre, encore plus. C'est mon père. Et je viens célébrer avec l'Église universelle la gloire d'un père.
Moi, c'est plus quand il dit « n'ayez pas peur d'être catholique », parce que c'est vrai que quand on est jeune, assumer sa foi, c'est plus compliqué. Et vraiment, il aidait les jeunes, ne serait-ce qu'avec les JMJ, à vraiment à assumer leur foi et à la vivre universellement. Et c'est pour moi, c'est ce côté-là qui me touche plus.
C'est un fait unique dans l'histoire de l'Église, la canonisation de deux papes en présence, de deux papes en vie. Pour les fidèles présents, rien de moins qu'un signe éclatant d'universalité, d'unité et de communion ecclésiale.
Ce qui touche, c'est la communion. Vous voyez, au Moyen-Âge, on a eu la crise des trois papes qui s'entre-déchiraient. C'est des moments tristes de l'Église. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on ressent, c'est le fruit de l'esprit de l'unité, de la communion. Pour moi, c'est quelque chose de grand là, qu'on vit.
Une journée inoubliable pour les pèlerins donc, sous le sceau d'une joie sereine, d'une émotion sincère, d'une profonde gratitude pour Jean XXIII et Jean-Paul II, de saints papes qui, du ciel, les fidèles en sont persuadés, continueront de les bénir.
Jean XXIII, surnommé le bon pape, a été l'initiateur du Concile Vatican II qui marqua l'ouverture de l'Église catholique au monde moderne. Jean-Paul II, le pape très populaire venu de l'Est, a décomplexé les chrétiens en les invitant à ne pas avoir peur et il a joué un rôle déterminant dans la chute du communisme. Le cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et ancien secrétaire pour les relations avec les États, nous a livré son sentiment. Tous les mercredis, pendant 13 ans, il s'est entretenu avec Jean-Paul II pour faire un point sur l'actualité internationale. On l'écoute.
Le pape Jean a ouvert les portes d'une église qui ne condamnait pas, mais qui cherchait à comprendre le monde moderne. Le pape Jean-Paul II lui a donné sa visibilité à l'église. Et maintenant, le pape François, on vient le voir pour le toucher. Je crois que c'est, cette progression. Non ? Et pour moi, évidemment, je n'ai connu bien que le pape Jean-Paul II, puisque pendant 13 ans, j'étais tous les mercredis soirs chez lui pour l'informer sur la situation internationale. Et dès le début, dès le premier mois, j'ai dit à mon secrétaire, c'est un saint, parce que c'est un homme qui vivait immergé en Dieu. Et je dis, comme j'ai dit à vos collègues journalistes très souvent, si vous pensez que le pape prenait ses décisions avec des cartes d'état-major sur son bureau, vous vous trompez. Tout était prêt, les décisions étaient prises à genoux devant le tabernacle. Et ça, c'est la clé de tout.
Quel est votre plus beau souvenir de ces nombreuses années passées aux côtés de Jean-Paul II ?
J'ai beaucoup de souvenirs, mais peut-être le plus amusant aussi, c'est quand il m'a demandé d'accepter la charge d'être secrétaire avec les relations avec les États. Il m'a dit, mais on va dire que vous êtes très jeune, quel âge avez-vous ? J'ai dit, ça, Saint-Père, j'ai 47 ans. Oh, il me dit, oui, vous êtes jeune, mais c'est une maladie qui passe très vite.
Jean-Paul II était un pape politique, il a fait beaucoup à travers ses voyages, à travers ses discours, ses prises de position. Quel est, selon vous, au niveau politique, l'acte le plus impressionnant, le plus déterminant qu'il ait posé ?
Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quand le président Gorbatchev est venu le voir. Le pape s'est préparé pendant un mois en lisant tous les jours une page du Nouveau Testament en russe. Et ça, je crois que ça dénote tout à fait l'attention que le pape avait aux personnes, à leur histoire. C'est une grande délicatesse spirituelle aussi.
Cette double canonisation est un message fort pour le monde aujourd'hui.
Deux saints, évidemment, qui ont influencé par leur réflexion et leur témoignage, non seulement la vie des chrétiens, mais la vie du monde. Et c'est une manière aussi de dire que l'Église est au service de la société. Ce n'est pas tout un club qui est fermé sur lui-même, mais elle s'ouvre à la société. Et on peut trouver en elle beaucoup de ressources humaines et spirituelles.
Le cardinal Jean-Louis Torrent, interrogé par Hélène Destombes. Parmi les personnalités de la curie romaine qui ont suivi ce dimanche la messe de canonisation des papes Jean-Paul II et Jean XXIII, avec beaucoup d'émotion, le cardinal Georges Cottier. Dominicain suisse, créé cardinal en 2003 par Jean-Paul II, il a été pendant 15 ans sous son pontificat théologien de la maison pontificale. Cette canonisation ne le surprend pas du tout et c'est avec beaucoup d'affection qu'il évoque la figure et les enseignements du nouveau saint.
Fondamentalement, quand j'y réfléchis, je ne suis pas étonné. Parce qu'il y a vraiment une dimension de présence de Dieu et présence à Dieu étonnante chez lui. Je crois que c'est ça. Et c'est vraiment une vie de saint. Dès son enfance, c'est quelqu'un qui connaît la souffrance, la lutte. Les régimes totalitaires, il les a touchés de près. Et il a lutté contre. Et son amour des gens aussi. Il se souvenait de chacun, il reconnaissait chacun. Quand on était avec lui, le temps n'existait plus. Et Dieu sait s'il avait des journées hyper chargées, hein. Mais il était à vous, et il avait aussi ce sens de la jeunesse, parce qu'il aimait la vie, et c'est un homme de l'espérance. Quand on pense aux épreuves qu'il a dû faire face, je dirais des épreuves pas tant au sens personnel, qui sont très profondes chez lui, mais les épreuves historiques, c'est quelqu'un qui a apporté l'espérance.
Il avait un rapport aux jeunes tout à fait particulier, et les jeunes le lui rendaient bien.
Oui, c'est vrai. Les jeunes l'aimaient, ils ont senti comme avec le pape actuel. Il y a une ressemblance de ce point-là. Parce que c'est quelqu'un, non seulement qui parle de la confiance et de l'espérance, mais qui donne confiance, qui fait confiance aux gens, et qui reconnaît les promesses dont chacun est porteur. Je crois que c'était très fort chez lui. Dieu sait s'il a parlé de la souffrance, de mal, des épreuves, mais il n'a jamais été pessimiste. Comme quoi, finalement, le mal n'est jamais le plus fort, il s'épuise. C'est toujours le bien qui l'emporte. Je pense que c'était une vue très profonde de l'histoire et de la présence de la Providence dans l'histoire. Je crois que c'est une grande leçon qui reste pour aujourd'hui, encore pour nous, où on est en plein désarroi actuellement. Et à regarder l'immédiat, on ne sait pas trop où on va. On croyait que les guerres, ça finirait. Et en fait, on voit que partout, il y a des foyers qui menacent. Eh bien non, il est toujours resté calme et pacifique et porteur de paix.
Quel est l'héritage que Jean-Paul II nous a laissé à travers ses encycliques ?
Si on relit maintenant l'ensemble de ses encycliques, il a touché à une quantité de problèmes qui émergent maintenant. La lettre sur les femmes, tout ce qu'il a dit sur le mariage et sur le corps humain qui redevient d'actualité, tout ça, il a vu. Donc il y avait un côté d'anticipation dans ce qu'il a dit.
Vous faites référence à la théologie du corps et ses 129 catéchèses.
Exactement, ces catéchèses. Actuellement, de différents côtés, on commence à les relire. Hein. Peut-être qu'elles auront plus de poids maintenant qu'au moment quand il les a prononcées. C'était la première année Il a pris les cours qu'il avait fait à Lublin et c'était un peu difficile pour l'auditoire immédiat. Mais actuellement, on se rend compte qu'il y a des perceptions d'abord évangéliques et aussi une espèce de une réhabilitation du corps. Parce que c'est vrai que le corps humain, l'être humain est touché par le péché. Mais on a trop vu le péché. Mais le corps lui-même n'est pas fait pour le péché, il est fait pour transmettre la vie, un instrument de l'amour et de l'amitié. Donc tout cela, c'est ce qu'il a vu.
Quel est, selon vous, de tous ces enseignements le plus important ?
La miséricorde. La miséricorde et la sainteté, je dirais, parce que cette initiative qu'il a eue de multiplier les béatifications et les canonisations, il y a une raison profonde, il explique dans une de ses exhortations apostoliques, l'appel de tous les baptisés à la sainteté, je crois que c'est ça, son idée. Faire comprendre aux gens que la sainteté n'était pas quelque chose d'exceptionnel ou, disons, d'extraordinaire, une voie à part, mais que c'était l'appel qui était inscrit dans la grâce du baptême de tous les chrétiens. Chaque condition de vie permet la sainteté. Ce n'est pas réservé à des groupes sociaux comme les religieux, etc. Donc ça, il était très fort. Et notamment, dans la vie de la sainteté, il y a la vie sacramentelle, le sacrement du mariage est une voie de sainteté. Et la sainteté, c'est la participation à l'amour de Dieu. Et cet amour, c'est un amour miséricordieux, je crois que c'est très fort chez lui. La compassion, la miséricorde, il la vivait intensément, personnellement aussi. Mais il l'a enseigné. L'attention aux souffrants, à la maladie aussi. C'est aussi des thèmes qui l'a touché. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que c'est la sainteté, et la sainteté comme vie de communion avec le Dieu de miséricorde.
Le cardinal Georges Coty, interrogé par Hélène Destombes. Des dizaines de milliers de Polonais se sont rendus à Cracovie, dont Karol Wojtyla fut l'archevêque, pour vivre la canonisation de leur pape dans une atmosphère de recueillement. Les médias israéliens ont eux aussi salué cette double canonisation. Jean XXIII et Jean-Paul II se sont tous deux efforcés d'améliorer les relations entre les chrétiens et le peuple de l'Alliance. Et ce lundi à Rome, la communauté catholique Sant'Egidio organise justement un congrès intitulé « De Jean XXIII à François, juif et chrétiens en dialogue ». Parmi les participants, le cardinal Casper, président émérite de la Commission pour les rapports religieux avec le judaïsme, les rabbins Riccardo Di Segni et David Rosen et l'historien Marco Roncalli, petit-neveu de Jean XXIII, que vous avez pu entendre hier dans ce magazine. Les travaux seront achevés par le rabbin argentin Abraham Skorka, ami de longue date du pape François. Dès ce lundi, le Saint-Père reprendra ses activités habituelles avec au programme une nouvelle réunion, la quatrième, du Conseil des huit cardinaux créé en avril 2013. Une réunion de 3 jours qui se poursuivra donc jusqu'à mercredi. La précédente réunion s'était déroulée à la mi-février. Elle avait été consacrée essentiellement à des questions économiques et administratives. Ce conseil est chargé d'aider le Saint-Père dans le gouvernement de l'Église universelle et d'étudier un projet de révision de la Constitution apostolique sur la Curie romaine. J'ajoute que les évêques du Zimbabwe seront eux aussi au Vatican pour leur visite à Limina. C'est par une célébration œcuménique qu'a été donné ce dimanche en Allemagne le coup d'envoi du jubilé pour les 600 ans du Concile de Constance qui avait abouti à l'élection du pape Martin V. C'était l'époque du grand schisme d'Occident. Constance avait été choisie en raison de ses nombreux monastères pouvant loger les participants et de son accessibilité par bateau. Les puissants d'Europe se réunirent pendant près de 5 ans dans cette ville frontalière pour pacifier l'Église catholique. Les commémorations s'étaleront, elles aussi, sur 5 ans. Concerts, représentations théâtrale, animation pour enfants, visites guidées, conférences, journées d'études et célébrations vont se succéder jusqu'en 2018 sous le signe de l'œcuménisme. Le 24 mai, un millier d'invités seront conviés à un repas. Ils seront assis à une table longue de 275 mètres placée sur la frontière germano-suisse. Au Luxembourg, l'initiative citoyenne pour le choix, née en décembre 2013, a organisé une marche samedi après-midi pour défendre l'enseignement religieux à l'école. Le gouvernement souhaite abolir les cours de religion et de morale dans les écoles du pays pour les remplacer par un cours unique de valeur. Les manifestants, dont faisait partie l'archevêque de Luxembourg, souhaiteraient que soit maintenu le libre choix entre les cours de religion ou les cours de morale, aussi bien à l'école fondamentale qu'au lycée. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican en français. Bonne semaine à tous.